Bonjour les copaines. J'ai croisé beaucoup de personnes en reconversion vers l'informatique. Des hommes, des femmes, plutôt cisgenres. C'est stupéfiant. Comme après 3 ans d'expérience, les femmes continuent de douter d'elles-mêmes et ne se sentent pas légitimes, alors que les hommes se sentent complètement à leur place après 3 semaines. Certains t'expliquent même généreusement le travail que tu fais depuis 5 ans. Vraiment. Ce n'est pas une question de compétence. L'étude Impact of Gender on OSS File Contributions le confirme d'ailleurs. Un nombre égal de contributeurs et contributrices dans le logiciel libre, hommes et femmes produisent globalement autant de contributions. La différence est dans la confiance que l'environnement accorde ou refuse par défaut. Et cet environnement, il ne s'est pas construit par hasard. Parce qu'à l'origine, l'informatique était un métier féminin. Les femmes codaient, calculaient, programmaient, car le travail était assimilé au secrétariat, précis, rigoureux et surtout sans prestige particulier. Puis l'informatique est devenue une activité reconnue, stratégique, lucrative. Et là, les hommes sont arrivés et les femmes sont parties. Il n'y a pas eu besoin de politique d'inclusion pour ça. Pas de quotas, pas de charte de diversité pour accueillir les hommes dans l'informatique. Ça s'est fait naturellement, comme une évidence. Alors que les femmes codeuses nous ont quand même amenées sur la Lune. Et si vous regardez aujourd'hui les métiers très féminisés, la petite enfance, les soins, le secrétariat, vous n'y trouverez pas non plus de politique pour inclure les hommes. Étrange. Une étude de l'université de Zurich, publiée dans la revue Social Networks, le documente de façon très claire. À partir des données britanniques, le sociologue Per Block montre que lorsque la proportion de femmes dans un emploi augmente de 10%, la probabilité des hommes d'y rester chute d'environ 12%. Et quand l'afflux de femmes atteint 75%, les hommes ont 2 fois moins de chances de rester dans cette profession. Ce n'est pas une question d'intérêts différents ni de profil de compétences qui changerait. C'est une tendance claire, mesurable, indépendante de tout autre facteur. Les hommes partent quand les femmes arrivent. Et là, on touche à quelque chose d'important. Parce que pourquoi partir? Qu'est-ce qu'on fuit exactement? On fuit une supposée perte de statut, une perte de prestige. Comme si la valeur d'un métier était indexée non pas sur sa complexité, son utilité ou ses responsabilités, mais sur le genre de ceux et celles qui l'exercent. Selon l'INSEE, les 20 professions les plus courantes chez les femmes concentrent des salaires moyens inférieurs. En 2025, l'écart de rémunération médiane chez les cadres reste significatif. 50 000 euros pour les femmes, 58 000 pour les hommes. Et les secteurs fortement féminisés comme la santé ou l'éducation reste structurellement moins rémunérateur que la tech ou la finance. Prenez l'enseignement. C'est un métier respecté, très honorable, avec une vraie place dans la société. Aujourd'hui, les professeurs sont moins bien payés et bien plus malmenés qu'avant, y compris par les institutions. La tâche n'est pourtant pas devenue plus simple, elle est même devenue plus difficile. Ce qui a changé, c'est que les métiers de l'enseignement sont désormais majoritairement féminins. La médecine, la magistrature, des professions en cours de féminisation où la parité commence à être réelle. Et presque simultanément, on voit apparaître les premières tensions, les premières remises en cause institutionnelles. Coïncidence. Et puis il y a le cas inverse, qui est peut-être le plus révélateur. Les hommes qui évoluent dans des métiers majoritairement féminins. Ils ne subissent pas la même pénalité du tout. Au contraire, ils progressent plus vite. Ils prennent la lumière. On appelle cela l'escalator de verre, par opposition au plafond de verre. Les femmes butent contre un plafond, les hommes, eux, montent sur un escalator. Ce qui explique peut-être pourquoi on se retrouve si souvent avec des hommes à la tête de secteurs très féminisés. Attention, ce n'est pas la présence des femmes qui dégrade un métier. C'est que la société dévalorise systématiquement ce que les femmes font. Les compétences associées au féminin, prendre soin, éduquer, organiser, sont traitées comme des dons naturels, plutôt que comme des qualifications acquises. Pourquoi payer correctement des choses qui se font naturellement ? Notez que c'est le même argument à l'envers concernant la force physique des hommes qui a longtemps justifié un salaire inférieur pour les femmes. Le prestige a un genre. Cela se retrouve dans les grilles salariales, dans la reconnaissance institutionnelle, dans le regard collectif. Et il ne change pas facilement de camp. Revenons maintenant au logiciel libre, parce que c'est là que ce mécanisme prend une forme particulièrement intéressante. Le libre repose sur des valeurs qu'on associe souvent à une certaine façon d'être ensemble, le partage, la collaboration, l'entraide, la contribution au bien commun, un monde sans hiérarchie formelle, ouvert en théorie à tout le monde. Et pourtant, les femmes représentent entre 1 et 10% des contributrices selon les études. C'est moins que dans beaucoup de secteurs tech qui sont déjà peu exemplaires. Plusieurs organisations ont essayé de changer cela. SPIP, Red Hat, l'April, Linux, XWiki, avec des codes de conduite et des communautés de femmes. Red Hat avait même créé les Women in Open Source Awards. Les résultats restent difficiles à évaluer. Ce n'est pas parce qu'il y a quelques femmes qui témoignent sur un site web que l'équilibre est atteint, ni qu'il va se maintenir. Une étude a analysé 355 projets open source. Seulement 3,4% disposaient d'espaces dédiés aux femmes. Moins de 10% affichaient un code de conduite. Et parmi ces codes de conduite, moins de la moitié mentionnait explicitement le genre. Sans structure concrète, sans engagement visible et continu, l'inclusion reste un vœu pieux et bien fragile. Dans le libre, il y a un mécanisme supplémentaire plus discret. Une grande partie du travail essentiel, la documentation, la modération, l'accueil des nouvelles contributeurs, contributrices, la traduction, l'organisation des événements, est bénévole et invisible. Quand des femmes s'engagent dans ces rôles de soins communautaires, ce travail n'est pas comptabilisé dans la gloire du développeur libre. On retrouve ici exactement le même réflexe. Ce que font les femmes, même dans un espace qui se revendique horizontal, tend à être moins reconnu. La pandémie l'a mis en lumière de façon brutale. En 2020, pour la première fois depuis plus de 10 ans, la participation des femmes dans le libre a reculé partout dans le monde. La fermeture des écoles, la surcharge des tâches domestiques, qui pèsent statistiquement davantage sur les femmes, quasiment 2 fois plus, ont réduit leur temps déjà peu disponible pour contribuer. Le logiciel libre, c'est du travail fait sur le temps libre. Et le temps libre n'est pas distribué de façon égale dans un foyer. Aujourd'hui, l'IA, l'intelligence artificielle, prend de plus en plus de place. Dans les conférences, dans les projets, dans les discours. Et j'entends des femmes qui se posent des questions éthiques, profondes, sur cette technologie. Au point d'envisager de quitter l'informatique. Des hommes aussi se posent des questions, mais pas au point de partir. Pendant ce temps, Donald Trump vient d'interdire à son administration de travailler avec des entreprises menant des politiques contre les discriminations raciales et de genre notamment. L'argument officiel est que cela coûte trop cher. Intéressant. Parce que personne n'a jamais calculé le coût des décennies sans inclusion. Personne ne s'est demandé combien cela coûtait d'avoir exclu la moitié de la population d'un secteur entier. Par contre, pour payer des impôts, pour acheter des produits qui ne nous ressemblent pas, pour payer plus cher du rose, là on pense aux femmes. Le prestige suit les hommes et la charge reste aux femmes. Encore aujourd'hui, ce que les femmes touchent perd de la valeur. Pas parce qu'elles le dégradent, parce qu'on décide collectivement que ce qu'elles font vaut moins. Et tant qu'on n'aura pas nommé ça clairement, dans les communautés du libre comme ailleurs, les codes de conduite resteront des vœux pieux et les escalators continueront de monter dans un seul sens.